Voilà, il nous reste une grosse vingtaine de minutes pour prendre d'éventuelles questions de la salle ou d'éventuelles interventions. Je ne sais pas qui veut commencer. Monsieur ?
Je suis grosso modo, enfin, pour ne pas dire quasiment entièrement d'accord avec ce qu'Emmanuel a indiqué dans son exposé et du deuxième orateur. Je ne me sens pas assez compétent pour pouvoir donner une appréciation. Mais ce qu'on entend régulièrement dans un certain nombre de cénacles en région bruxelloise, c'est l'idée que je trouve assez loin à chercher, c'est d'introduire des facilités linguistiques pour les anglophones. Alors je me demande, est-ce que c'est constitutionnellement valable? Parce que j'ai posé la question à des professeurs de droit constitutionnel, aucun m'a répondu, sauf Francis Delperré. Il y en a même un qui m'a refusé explicitement de me répondre, à savoir le dénommé Hendrik Feuil, pour vous dire. Oui, donc j'ai posé la question, je n'ai pas eu une réponse des autres professeurs en droit constitutionnel ici en Belgique. Je pense que ça se discute. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la compétence pour la législation linguistique en région Bruxelles-Capitale, région Bruxelles, cette compétence est exclusivement fédérale, presque on m'a dit, et elle est donc avec une simple majorité. Alors là, je pense qu'il y a là une lacune, et il y a une lacune qui existe aussi au niveau peut-être de la région de langue allemande, parce que la région de langue allemande qui est traitée dans l'article 129...
Non, 130.
Oui, 130,
c'est 135 ça. 135
éléments. C'est ça. Tandis que donc, les régions à statut spécial sont traitées dans 129.
Oui, mais la région allemande n'est pas une région donc, de facilité.
Oui.
Les communes se trouvent dans l'article 8, premier et deuxièmement, mais le dernier alinéa de cette disposition de la loi linguistique dit quand même très bien qu'on ne peut pas considérer les communes allemandes comme étant des communes dites de facilité.
Mais les francophones
ont des avantages. Vous pouvez op antwoorden op uw vraag in feite 1. Artikel 4 is duidelijk voor de grondwet, het onderscheidt de taalgebieden. Dus het Engels behoort daar dus niet toe. Als je het Engels accepteert, ook het Chinees, het Arabisch, dat weet je wel toe. Dat staat er dus niet in. Je zit maar dus 3 officiële landstalen, waarom het gewoon het gebruik is verwacht in de bestuurstaalwet. Vandaar trouwens ook in feite de bestuurstaalwet aan zich. Is dus de grondmotuur van het voormalige artikel 3 bis, dus het huidige artikel 4 van de grondwet. En vandaar ook dat iedereen erkent dat de bestuurstaalwet op een aantal punten moet worden aangepast, maar juist door het feit dat die bestuurstaalwet de basis is van een heel belangrijke constitutionele bepaling in onze federale staatsstructuur, dat iedereen wel zegt van we moeten het aanpassen, maar er komt ook niemand aan. Wat ook de doos van Pandora nu open. Want dat begint hier en dat eindigt natuurlijk daar. Dus vandaar ook die aversie om daaraan te beginnen. Om dan terug te komen in feite op het point que mon collègue vient de souligner donc, avec le cas de Fix. Oui, c'est bien le cas avec die Rouco, parce que c'est donc revenant à un des points qui se trouvait donc dans l'accord entre Moureau et Van Engel, où il s'était fixé un septentrant. Un septentrant non seulement en région, mais aussi des cadres linguistiques. Dans les communes. Donc, ça allait beaucoup plus parce que ce texte-là, c'est Jean-Luc Dehaene qui part après en 2010, juste avant la formation du gouvernement du Rupo, a encore employé le même texte avec quelques modifications de cause à cause. Parce qu'avoir un cadre linguistique, c'est une chose. Mais moi, je peux dire 70F, 30N. Mais je ne suis pas obligé de remplir mon cadre linguistique. Donc il faut encore trouver quelque chose pour remplir un cadre linguistique. Et là, de Haal avait presque donc trouvé un moyen pour aussi que le monde politique était vraiment incité de remplir le cadre linguistique. Mais ça ne m'a pas abouti non plus, donc une solution. Dus ik heb ook antwoord op de twee aspecten.
Sur la question des facilités pour les anglophones ou d'autres langues. Rien n'interdit non plus à une commune, sur une base volontaire, de proposer un service dans une autre langue à ses citoyens aussi.
Non. Vandaag, vanmorgen, ik zeg maar iets, een gemeente, Hasselt of zo, of Gent, of wat dan ook, begint daar in het Engels te praten enzovoort, elk al die andere genomen op standaard worden vernietigd door de Raad van State, dat die ook gaat doen, hè. Dus dat is met andere woorden...
Non, mais pas, pas délivrer des documents officiels, mais avoir un guichet.
Un guichet, c'est dans la langue, c'est dans la langue du taal van het gebied, de la région, donc c'est ça, la langue officielle.
Oui, il y a une seule échappatoire, c'est dans le taal, c'est indiqué ici, tandis que je vérifie. Donc, dans le taal, il est indiqué que, oralement, un fonctionnaire qui connaît une autre langue peut converser avec l'administré dans cette autre langue. Mais ce n'est pas, ça ne peut jamais, en aucun cas, constituer un droit. Ce n'est qu'une tolérance, c'est qu'une faveur, une gunst. Et ça vaut pour toutes les langues étrangères par rapport à la Belgique. Hein. Et toutes les langues étrangères par rapport à la région linguistique où on se trouve.
La seule, aussi dans notre jurisprudence, par exemple, est à Bessel ou à Halle, la police constate qu'il y a deux chiens qui sont très malades et qui peuvent nuire à la santé des habitants. Alors là, la commission accepte que si, par exemple, on veut avertir les habitants, que ce n'est pas seulement en néerlandais, mais qu'on peut aussi employer donc le français ou d'autres langues. Un autre cas de figure, mais ce n'est pas donc conforme aux lois linguistiques. Hein. Si ça passe au Conseil d'État, ça ne va pas. Hein. Mais soit, ça c'est la pratique. La même chose, par exemple, dans une école. Où il y a beaucoup d'immigrés, d'enfants immigrés. On sait par exemple que c'est de l'arabe. Et il y a donc des travaux qui se font dans l'environ avec des grandes grues pour faire des avertissements qu'on dit, eh bien, pour avertir ces enfants-là. On peut le faire dans la langue de ces enfants. Mais ça, c'est une jurisprudence de la CPCL. C'est contraire aux lois linguistiques. Hein? Mais normalement, il y a donc des cas de figure où on dit qu'on peut faire cela. Point d'intégration, tout ça sont les questions les plus souvent qu'on fait des communes, c'est comment intégrer, qu'est-ce qu'on peut faire dans une autre langue, oui ou non. Et c'est vrai aussi qu'on dit parfois qu'on va d'abord donner la langue de la région et que par d'après, on dit en avant traduction, alors il y a une autre langue. Mais ça doit avoir, c'est l'exception, un but très spécifique. On ne peut pas commencer à généraliser ça en disant maintenant il y a un tel habitant turc. On va commencer à tout envoyer en turc. Non, non, ça va vraiment limiter à certains aspects qui se jouent santé publique, danger et tout ça qui joue.
Bon, c'est une question d'information. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en 2016 dans la résolution enfin, des cadres linguistiques à Bruxelles? Est-ce que le gouvernement régional actuel en fait une priorité? Est-ce qu'il y a des comptages qui sont en cours au sein du service public régional de Bruxelles pour avoir enfin un cadre qui passe le cadre du Conseil d'État?
Il y a toujours des cadres linguistiques qui sont préparés quelque part à Bruxelles pour une administration X ou Y. Le dernier pour le ministère de la région de Bruxelles-Capitale, il date de 2013, donc en principe, ils ont la paix jusque 2019. Et il n'y a pas eu de recours contre le cadre de 2013, donc l'acte est devenu définitif. Il peut toujours être écarté sur base d'une exception d'illégalité, mais a priori, il est en tout cas protégé d'une annulation. Mais sinon, moi, l'impression que j'ai, hein, c'est ces histoires de cadre linguistique. Tout le monde sait que c'est essentiel, mais ça barbe tout le monde. C'est vraiment l'épine dans le pied des administrateurs. Oh, encore cette histoire de cadre linguistique. Et donc, voilà, c'est vraiment le truc rasoir qui ennuie tout le monde, et on est sûr que ça va quand même fonctionner. Donc, dans certaines grandes administrations, il y a parfois même des stratégies qui s'établissent. Faisons le cadre du mieux qu'on peut. Hein. Si ça se trouve, ça va être annulé. Mais pendant les 2-3 mois où cet acte n'est pas. Enfin, la procédure est pendante au Conseil d'État, là, on va nommer les 300 fonctionnaires. Hein, et on va en promouvoir 600. Parce qu'on est sûr qu'on aura eu cette fenêtre de tir. Donc on arrive comme ça à des stratégies vraiment un peu tristes, hein, il faut bien dire. Mais donc, pour sauver la légalité de promotion ou de nomination, alors on peut toujours dire qu'après ces nominations peuvent être annulées, mais elles ne le seront pas toutes.
Non, mais que ça barre tout le monde, hein, on comprend bien. La difficulté intrinsèque de l'opération, c'est très bien montré, mais ça reste quand même étonnant après 25 ans que ce soit que la résolution structurelle du problème soit davantage une priorité du premier plan. Les conséquences sont quelles dans le fonctionnement quotidien du service?
Je peux compléter, mais il y a deux choses. Je crois qu'il y a un sentiment d'abattement, d'abord. ça ne va jamais. Enfin, je veux dire, on sait bien que si on le fait, c'est quand même pour se faire tirer dessus après. En plus, c'est souvent les mêmes cibles qui sont attaquées, hein, les grosses administrations, hein, les cadres, je ne sais pas moi, Innoviris ou quelques petits, enfin, petites administrations, ça passe quand même un peu plus facilement, ou ça ne retient pas l'attention des requérants habituels. Mais il n'y a certainement pas, à ma connaissance, une volonté politique d'en faire un sujet que l'on amènerait sur la table systématiquement maintenant dans les négociations avec le gouvernement fédéral, des propositions qui seraient régulièrement déposées au Parlement fédéral. Moi, je ne vois pas passer tout ça, en tout cas. Donc, j'ai plutôt le sentiment, c'est parfois comme pour d'autres choses à Bruxelles, mais donc, tant que ça fonctionne en marge de la légalité, on ne va pas continuer. Et en attendant, une espèce de solution prophétique comme un cadre fixe, quelque chose comme ça. Mais je ne pense pas que ça fasse l'objet de discussions au sein des conseils des ministres régulièrement.
Voilà. Ça, en dépend donc de différence avec le fédéral. Là, on n'a jamais eu de problème. Parti confondu, N ou F, PS, tout le reste, rien, on n'a jamais eu de problème. Mais à Bruxelles, on a toujours des problèmes avec tout le monde, le N et le F. Et on ressent que l'application des LLC à Bruxelles, ça pose un problème pour eux. Les LLC, c'est quelque chose de trop à Bruxelles. Ils n'aiment pas ça. Parce que j'ai eu une discussion avec un responsable avant qu'un des trois cadres nouveaux qui résultent de la réforme, de la sixième réforme de l'État, il a dit, oui, chez nous, ça ne fonctionne pas comme ça. On ne fait pas ça. J'ai dit, au fédéral, tout le monde accepte. Chez nous, ça ne va pas. Voilà, c'est du seul. Mais naturellement, il y a toujours le grand danger, c'est le Conseil d'État. Et là, c'est pour tous les actes et mouvements qu'on fait. Tant qu'il n'y a pas un recours au Conseil d'État, on peut faire ce qu'on veut. Mais le jour où vraiment on passe au Conseil d'État, on vraiment c'est oulala, voir ça comment.
Et le jour où les plaideurs en matière de fonction publique bruxelloise, systématiquement, dans chaque requête, soulèveront un moyen de législation linguistique, là, c'est le blocage.
Ah oui, total. Parce que
on peut toujours tirer ce moyen, à l'exception des légalités. Ah, il était nommé un mot. Il n'y a pas de cadre. On se voit un peu votre cadre pour voir si c'est bien motivé.
C'est parce que les LLC sont d'ordre public. Donc, tu dois d'abord les demander en premier lieu, même à l'auditeur peut le dire, oui, mais ce n'est pas un ordre. Donc, finalement, il ne faut pas chercher quelque chose de genre. Il n'y a pas de cadre linguistique.
C'est une demande francophone en 89, hein, l'application d'un régime de cadre linguistique au niveau régional. Commencer, puis madame, et puis.
À la réponse à la deuxième partie de la question, renforcer le bilinguisme, vous avez tous les deux fait référence à une compétence des communautés, hein, l'enseignement. Donc c'est notamment là que ça se situe. Maintenant, bon, il y a quand même quelques voix qui s'élèvent, d'ailleurs, tant du côté néerlandophone que du côté francophone, pour peut-être justement dire que l'enseignement devrait être en partie ou même complètement régionalisé, notamment du côté francophone, maintenant tout le débat aussi entre régionalistes et communautaristes, mais aussi du côté néerlandophone, on a eu déjà des propositions dans ce sens. Et donc je me demandais, enfin, dans ce cadre-là, ce que vous pensiez de ces propositions-là. Donc si... est-ce qu'il veut, on pourrait dire, la question dans le sens où voilà, c'est les communautés, mais bon, est-ce que ça doit nécessairement rester comme cela, ou est-ce qu'il y a des parties des compétences de l'enseignement qui pourraient passer à la région,
ou, enfin, ja, die vraag is niet zo évident, eerlijk gezegd. Het régionaliseren van de onderwijsbevoegdheid, in plaats van het communautariseren zoals het nu is met de gemeenschappen, is vrij verregaand. Ook daar zal weer het probleem Brussel zijn. Als we kijken nu naar het huidige debat dat zich reeds voordoet, waarbij dus vanwege Vlaamse ouders het, of Nederlandstalige ouders het enorm moeilijk is om hun kinderen ingeschreven te zien in een Nederlandstalige school in Brussel, omdat er Franstaligen naar die school worden ingeschreven. Het debat leeft nu binnen de Vlaamse regering. Ja, dat gaat niet zomaar van een leien takje lopen. Ten eerste gewoon, maar het is niet aan mij om een appreciatie te geven over de kwaliteit van het onderwijs in de Franse gemeenschap. We kunnen enkel vaststellen dat spijts de enorme budgettaire kosten en de geldstromen die er naartoe gaan, dat daar blijkbaar nog niet veel is veranderd. Dat is een moeilijk debat. We gaan zeggen in feite van gemeenschap naar gewest. Een ander debat, en dat maakt de bestuurstaal wel in delicate terug, is de ouverture die gemaakt geweest met de zesde staatshervorming. Dus maintenant, il a les compétences communautaires, il a les compétences régionales. Mais avec la sixième réforme de l'État, par le biais de l'article 135 bis de la Constitution, on a ouvert une petite porte qui peut, ou qui est de basse disposition, dans la région bruxelloise, que des compétences communautaires peuvent être régionalisées. Ça fait un mot de différence. Quand la compétence reste communautaire, ah oui, c'est N ou F. Une fois qu'une compétence communautaire devient régionale, c'est bilingue, c'est Bruxelles alors, c'est tout autre. Donc c'est pour ça, mais je pense que ça va aussi être une des raisons pour laquelle les lois linguistiques, on doit les revoir, ou on doit quand même voir comment on peut voir où un meilleur contrôle ou l'application de ces lois. Parce que si on, dans le futur, on va régionaliser beaucoup plus de compétences qui sont pour l'instant communautaires, ça peut être l'enseignement. Là, vraiment, ça va se faire sur base, donc ça ne va pas. Je pense que du côté N, il ne va pas commencer à dire oui, mais on va régionaliser ça, mais à Bruxelles, question de respect des lois linguistiques, c'est presque zéro pour nous. Donc c'est ça pour l'instant un des grands freins dans toute cette opération. Le jour où les lois linguistiques, les jours idéales, sont vraiment appliquées d'une façon presque impeccable, ou que vraiment on ressent qu'il y a une volonté de gauche et de droite, vraiment pour laisser appliquer ces lois d'une façon convenable, les angoisses qui règne pour l'instant vis-à-vis de régionaliser certaines compétences communautaires, disparaîtront. Mais dans le temps actuel, je ne pense pas que ça va se réaliser, juste à cause du fait qu'on sait qu'il y a un autre statut linguistique alors, qui se colle à cette compétence.
Vous aviez une question ?
Oui, monsieur. Ben ik verkeerd, dus beter maar als ik verkeerd ben. Maar als ik eerst luister naar de taalwetgeving gelijk in de gemeente, in OCLE, en daarna de uiteenzetting over de taalkaders, dan denk ik, dan meen ik eruit af te leiden dat bijvoorbeeld in gemeenten het systeem toch is van een principiële tweetaligheid. Weliswaar in bepaalde gradaties, maar dat er toch altijd een zekere vereiste van tweede taal is elementair naar beter. Dus eigenlijk een principieel bilingualisme. Maar dan als ik kijk naar de taalkaders, heb ik de indruk dat dat meer uitgaat van een principieel unilingualisme, omdat je hebt het kader Nederlands.
Je hebt de tweetaligheid van de dienst. Ja. Niet meer van de ambtenaar, maar van de dienst. Met andere woorden, de dienst. In die zin, we zijn georganiseerd dat men altijd in de twee talen iemand, alleen in een taal, in een van de twee talen iemand kan te woord staan.
Klopt, maar het is geen eentaligheid. Als je kijkt naar de ambtenaar, dan gaat men binnen de taalkaders. Binnen de taalkaders wil men de tweetaligheid van de dienst krijgen door eigenlijk twee eentaligen.
Omdat je ook gaat kijken naar het werkvolume.
Ja,
en het werkvolume dicteert met andere woorden het aantal bepaalde ambtenaren in een bepaalde richting. Dus als je wordt vaststelt, zeg maar niet dat je wordt effectief met 70% of 80% dossiers hebt in een bepaalde taal, kan je bezwaarlijk aan zeggen, want iedereen moet tweetalig zijn. Of je zou dat moeten aanvaarden, de tweetaligheid. Dat was vroeger het geval bij de brandweer. Maar met alle gevolgen van dien, in de praktijk kwam er niet veel van een huis. Maar dat is het systeem, ik denk eerlijk gezegd, dat is ook het systeem der eiligen van de eiligen, hè. De echte tweetaligheid vragen op alle niveaus in Brussel. Ja. Het zou tof zijn, hè? Maar of dat politiek, dat staat in de praktijk haalbaar kan zijn, dat vind ik echt niet.
Maar ik stel de vraag juist omdat ik weet dat er zelf nu nog vanuit de brandweer eigenlijk die vraag gesteld wordt. Want in de brandweer heb je dan bijvoorbeeld de situatie dat je een Franstalige hebt, die moet geen Nederlands kennen, maar die Nemo wel samen op stap met Nederlandstaligen, in principe eigenlijk in Frans bekend. En ik weet dat een vakbond van de brandweer eigenlijk zoekt naar tweetaligheid van de ambtenaar, maar geen volledige tweetaligheid, want dat is inderdaad een utopie. Maar een soort van tweetaligheid die een minimum nodig ja. om toch die functie te kunnen vervullen. Zeker in het geval van brandweer, zeker in het geval van dringende medische hulp.
Het probleem, ja, maar het probleem van de brandweer hier in Brussel is inderdaad actueel geworden omwille van het gegeven dat er momenteel een samenwerkingsakkoord in bespreking ligt met de federale overheid, waarbij dus de Brusselse brandweer het recht krijgt om te interveneren buiten het tweetalig gebied Brussel hoofdstad. En daarvoor uiteraard ook financieel wat compensaties krijgt. Dus geen taalpremies voor, maar wel een compensatie krijgen. Nu, het federale had daar niet in toe. Met de filosofie dat het helemaal niet gaat dat brandweerlieden die enkel het Frans kennen, gewoon in een homogeen Nederlands, want de tussenkomsten gaan vooral zijn het homogeen Nederlandse taalgebied. Laten we daar de tussenkomsten doen, in feite ten aanzien van derden, waar enkel dus het Nederlands is toegelaten. Dus dat is momenteel discussie bij de brandweer. Het discussie over de taalpremie speelt daar natuurlijk ook een rol. En te meer gewoon dat de Raad van State heeft het artikel 9, paragraaf 1 van het bewuste KB voor het bekomen van taalpremies vernietigd. Dat moet trouwens nog hersteld worden in een of andere zin. Want op basis daarvan zijn er ook nog een ruim aantal Brusselse ambtenaren die nog steeds geen taalpremie krijgen, omwille van het federaal nog steeds AKB.
On va prendre une dernière question avant de terminer, puisque j'ai promis à monsieur de laisser la parole. Je vous écoute.
Je suis aussi content de te voir. Peut-être après ta question, je suis content pour l'instant.
Je voulais poser une question qui est un peu périphérique, c'est le problème lié aux discriminations linguistiques. Dans la loi sur discrimination, il y a une disposition qui, à ce stade, n'a jamais été appliquée. C'est la possibilité de créer un organe qui peut-être pourrait plus être dans le centre interfédéral d'égalité des chances. Ça pourrait être la CPCR. Qui serait chargé de traiter des dossiers relatifs aux discriminations linguistiques. Nous l'avons appelé à l'avis du professeur Romain Coche par rapport à cela, parce que, bon, jusqu'à maintenant, la loi de 2007, l'arrêté n'a jamais été pris. On parle d'un institut national des droits de l'homme dans l'accord gouvernemental. Je ne crois pas nécessairement que ce soit l'organe le plus ad hoc là-dessus, mais je voulais avoir un peu son opinion par rapport à cela. Et sur le reste, bon, voilà, on a.
Vous avez 30 secondes.
Non, je peux te suivre à 100%. parce que là, donc, en obligation de prévoir, il ne faut pas pour l'instant quelque chose de faire complètement même. Ça n'existe pas. Aussi, la même chose, ça a été mis sur, ça a été sur la table donc, pendant la négociation pour la 6e réforme de l'État. Je ne vais pas dire longtemps. Si ma mémoire est bonne, c'était Mme Mirke, dans le temps, qui a dit ça, parce que je pense qu'elle a aussi, dans le temps, déposé une proposition de loi et pas d'après comme ministre, suggéré qu'on allait vraiment donner ça à une institution. Elle pensait aussi à la CPCM, mais c'était vraiment quelque chose de... mais c'est vraiment une... c'est un sujet qui est très sensible, parce que je suis aussi pour la proposition, mais le problème va être comment est-ce qu'on va démontrer dans ce pays une discrimination sans rentrer dans « oui, mais il est discriminé, ça peut être un F ou un N, sur base de quoi ?» Une discrimination, il y a toujours certains aspects qui sont subjectifs, pas objectifs, qu'on peut prendre en compte pour vraiment dire la discrimination, et c'est pour cela, pour éviter cela, qu'on n'a pas pour l'instant encore tranché politique, le plan politique, donc cette compétence, ou donc vraiment quelqu'un. Concernant cet Institut national des droits de l'homme et tout ça, c'est toute autre chose, mais il y a Vanessa qui connaît ça mieux que moi, donc c'est dans la salle qui s'est expliqué cela. Donc, mais ça n'a rien à voir vraiment, on n'a jamais parlé de donner ça à cette droit de l'enfant, droit de l'homme et tout ça, mais écoute, on en parler pendant 2 heures, Vanessa.
Bon, merci beaucoup. Donc merci à tous d'être venus. La troisième séance, troisième et dernière séance de ce cycle aura lieu mardi prochain, le 15, au même endroit.